Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney. Depuis le début de la guerre, l'obsession de tous est de savoir quand est-ce que Vladimir Poutine appuiera sur le bouton nucléaire. On a tout dit de lui, y compris qu'il était fou allié et donc prêt à le faire. Depuis son étagné bluff, ce n'est pas du bluff, le patron du Kremlin n'a pas actionné la fin du monde, mais a récemment trouvé une nouvelle tactique pour semer la peur dans le peuple ukrainien. Fini les chars et les blindés trop obsolètes, excite l'aviation trop risquée avec la défense anti-aérienne ukrainienne, toujours pas de nucléaire tactique et heureusement. Alors voici les drones. Des drones légers, pas chers, 20 000 euros environ, de fabrication iranienne. Il en pleut comme des gouttes de pluie, en particulier sur Kiev. Des civils sont tués. Et pour l'heure, ça fonctionne car les militaires ukrainiens sont totalement dépassés. Charles Villeneuve.
Oui, je nuancerai, si vous voulez, votre dernier propos largement. En réalité, ils ont changé pour essayer de stopper la spirale de recul et de défaite, l'armée russe réelle. Ils ont changé brutalement, non seulement de tactique, mais de stratégie. Alors en effet, il y a l'appui de ces nouveaux drones qui ont une caractéristique largement supérieure à celle des Turcs, ce qui fait le désespoir des Turcs d'ailleurs. Iraniens, pourquoi? Parce qu'en réalité, ils portent à 1000 km, ils ont 30 à 40 kilos, et ils ont ciblé toutes les centrales électriques pour provoquer, en effet, des extinctions de lumière, mais pas seulement, du chauffage aussi. Donc c'est tout à fait une nouvelle stratégie, et tout à l'heure peut-être que Catherine dira que c'est tout à fait dans le style Staline. Oui. Elle parlera de l'énorme...
Laissez-lui la primeur de le dire.
Voilà. Mais si vous voulez, ce qu'il y a de très important, c'est le siège de Kherson. Pourquoi c'est très important? Parce que si les Ukrainiens rentrent dans Kherson, qui est en train d'être évacué, et ce que je crains personnellement, c'est que cette évacuation ordonnée par les Russes annonce peut-être une bataille à la Stalingrad. C'est-à-dire que les Russes vont bombarder à grand renfort d'obus, de canons, de 155 et tout ce que vous voulez, la ville pour l'anéantir. Et c'est la porte ouverte vers Odessa. C'est ça la stratégie qui s'annonce.
Kherson, c'est à l'est sur la mer d'Azov.
Oui, c'est ça. Ça ouvre sur la mer d'Azov. C'est le sud de la Crimée, mais surtout, ça ouvre sur l'ouest, vers Odessa, qui est le principal port d'export de la mer Noire.
Exactement.
Et l'ouverture vers les mers chaudes, notamment par le détroit des Dardanelles.
Non, ce qui fait peur en ce moment, c'est qu'on se demande pourquoi Kherson est évacué. La rumeur est que le barrage sur le Dniepr est miné. Est-ce qu'il veut absolument... provoquer une inondation majeure, mais si ce barrage saute, ça veut dire aussi que la Crimée ne serait plus approvisionnée en eau. Alors donc, on peut quand même penser... Mais ce barrage sert aussi à refroidir la centrale de Zaporizhzhia.
On n'en est pas certain, Catherine.
On n'en est pas certain.
C'est Zelensky qui l'annonce.
Oui, mais ça fait peur aussi. Pourquoi ?
C'est une hypothèse.
C'est une hypothèse. En tous les cas, le fait que les Russes évacuent la région de Kherson, c'est qu'il va se passer quelque chose, des bombardements, chose, ça va être un déluge de feu.
C'est un deuxième
tout cas, j'apprends par l'AFP que de nouvelles frappes provoquent des coupures de courant dans plusieurs régions de Kherson.
Sur Kherson, là, dont vous avez parlé tous les deux, Charles et Catherine, moi je vais pas faire les stratèges en chambre, il y en a déjà trop sur les chaînes un peu partout, mais il me semble quand même que c'est pas de la stratégie là. Dans la tête de Poutine, comme dans la tête de beaucoup de Russes, il y a les grands mythes fondateurs. Et parmi les grands mythes fondateurs, il y a Stalingrad. Moi, depuis que je suis né en 42, j'ai toujours entendu parler, quand j'étais gosse, Stalingrad, l'héroïsme de Stalingrad, les Russes à Stalingrad, etc. Et il n'y a pas que moi qui en ai entendu parler, les Russes aussi, ils ont été nourris au lait de Stalingrad depuis toujours. Et je crois que l'idée de faire de Kherson une résistance. Alors, on enlève les populations de manière à ce qu'il n'y ait pas des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers de morts. Mais on voit une ville qui peut un peu... C'est possible qu'il ait ça en tête pour créer... Parce que ce qu'il n'a pas réussi à créer, et ce que les Ukrainiens ont créé depuis le début de cette guerre, c'est-à-dire depuis plus de 6 mois maintenant, c'est qu'ils ont retrouvé un mythe national, un esprit national. Et c'est ça qui leur a donné la victoire et les ailes de la victoire. Les Russes, aujourd'hui, on sent bien que ça peine de tous les côtés. Ils n'ont plus retrouvé cet esprit
on
national
dit ça, mais il y a quelques temps, je vous rappelle qu'il y a 5 semaines ou 4 semaines,
on disait c'est plié pour la Russie. Les Ukrainiens,
non, on n'a pas dit ça ici parce
qu'on a dit il faut rester prudent, etc. Mais en gros, l'image était que les Ukrainiens étaient en train de gagner. On s'est dit la mobilisation, ça marche pas, ça marche pas du tout. Et ben finalement, au bout du compte, quand il y a des gens, même qui sont pas des soldats formidables, sur le terrain, le nombre fait que ça change.
Le nombre,
et par conséquent, par conséquent, on est reparti là dans
loin
un.
Du nombre.
Je pense quand même que la volonté de faire partir les gens de Poutine montre que il fera sans doute. À Kherson, bien sûr, il fera sans doute un bombardement massif, mais là, il préfère quand même éviter de tuer sa propre population, d'ailleurs, parce qu'il y a des Russes, il y a des russophiles là-dedans, et quand même trop de population ukrainienne qu'on ne lui pardonnerait pas. Ouais. Donc je pense que c'est
80%. D'Ukrainiens et 14% de Russes.
Voilà,
c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avec surprise, il déclare une loi martiale parce que, soi-disant, c'était la population qui a réclamé l'annexion de la part de la Russie. En réalité, c'est une infime minorité.
Alors, vous avez... il vaut mieux quand même les éviter. Il vaut mieux quand même éviter.
Moi, je crois que c'est pas... On peut anéantir un pays sans le nucléaire. C'est-à-dire, à partir du moment où vous coupez l'électricité, qu'il n'y a plus de chauffage, qu'il n'y a plus d'eau, que les gens vont mourir de faim. Et ça, Staline, pour Poutine, est sûrement un modèle.
Surtout en Ukraine.
Et en ce moment, les Russes empêchent les Ukrainiens d'exporter leur bateau de céréales.
Par Odessa.
Donc, on voit bien qu'ils sont en train de faire un blocus mortel pour des tas d'Ukrainiens. Et ce qui va se passer dans les mois d'hiver qui vont arriver, mais les gens, ce que je crains, vont mourir sans même avoir des drones tous les jours sur la tête. Quoi. Ouais. C'est ça qui est terrible. Et ce qui se
Ursula von der Leyen a quand même projeté de fournir une aide de 1,5 milliard d'euros par mois à l'Ukraine dès 2023. Ouais,
c'est vrai qu'on se dit qu'à un moment donné... l'argent déversé, surtout, on voit quand même que certaines armes ne sont pas accordées aux Ukrainiens, y compris par les Américains, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils aillent trop loin. Donc ces aides-là, au fond, on se demande si ça ne fait pas durer la guerre éternellement et si ce n'est pas...
Un pansement sur une jambe de bois.
Un pansement sur une jambe de bois qui n'empêche pas une
qui
seconde...
Qui n'empêche pas l'anéantissement du pays, comme on vient de le dire. Charles Villeneuve.
Non, c'est intéressant ce que Catherine a évoqué en parlant de la grande famine en Ukraine. N'oublions pas que l'Ukraine est le grenier à blé de la Russie. Et Staline, en 1932-33, a provoqué cette grande famine en stoppant, en s'arrogeant complètement
ce stock,
toutes les réserves de blé qu'il a revendues à l'extérieur. Et on l'a appris. Il faut lire, par exemple, le journal de l'Humanité en France, en 1933-34, ou qui dit que tout ça est pas du tout, que tout va très bien, que c'est parfait, etc. Même Édouard Herriot, d'ailleurs, qui était président du Conseil, a été invité à Moscou, et il est revenu en disant « Mais tout est faux, tout va très bien, les Ukrainiens... » Les Ukrainiens crevaient de faim et mouraient par dizaines et par centaines.
Qui ramasse...
5 millions de morts.
Oui, qui ramassait un grain de blé à côté d'un silo qui était plein était fusillé. Donc, on est frappé de... On croit toujours que l'homme s'améliore et que la barbarie passée, c'est un temps révolu. Eh bien, c'est pas vrai. On s'aperçoit que dans un pays, c'est les mêmes.
Je veux dire, c'est drôle. Ça n'a rien de drôle. Mais moi, je me demande alors pourquoi les Russes n'ont pas commencé comme ça. Pourquoi ont-ils commencé d'une façon...
Parce qu'ils ont cru qu'ils allaient rentrer dans le beurre.
Quand on disait à un moment donné, ils en ont encore sous le pied.
Nous, on en a sous le pied à 10h50 en voiture Sim.